Extrait numéro 9, chapitre 14. Premier coup d'œil sur Pétersbourg. Pendant que le prince Troubetskoï me racontait les différentes péripéties de cette chasse, Saint-Pétersbourg semblait peu à peu sortir de l'eau à l'extrémité du golfe. D'autres dômes, moins élevés que celui qui le premier avait frappé notre vue, brillaient çà et là. Les uns dorés comme la coupole de Saint-Isaac, les autres étoilés seulement. C'étaient ceux de l'église de Kazan, de l'église de la Trinité, de l'église Saint-Nicolas. Nous nous dispenserons de citer les autres monuments religieux, Saint-Pétersbourg ayant non pas comme Moscou avait jadis 40 fois 40 églises, mais 46 églises, paroisses et cathédrales, 100 églises succursales et 45 chapelles particulières, le tout armé de 626 cloches. Au reste, tout cela est disposé d'une façon peu pittoresque, Saint-Pétersbourg étant bâti sur un terrain plat. Deux affreux bâtiments jaunes, ayant l'air de deux casernes, sont, avec deux coupoles peintes en vert, la première chose qui tire l'œil. Les deux coupoles vertes sont la coiffure des deux chapelles d'un cimetière. Les Russes affectionnent particulièrement la couleur verte pour la coupole de leurs églises et les toits de leurs maisons. Ce qui, dans l'un et l'autre cas, n'est pas heureux. Le vert des coupoles se détachant sur le bleu du ciel, le vert des toits jurant avec le vert des arbres. Il est vrai que le ciel n'est pas bleu souvent. Et que les arbres ne sont pas verts longtemps. Entre guillemets, nous avons ici non pas un été et un hiver, disait Catherine, mais un hiver blanc et un hiver vert. Un instant après, nous entrions dans la Neva, grande à son embouchure, six fois comme la Seine. Nous longions le quai anglais et nous stoppions en avant du pont Nicolas inauguré depuis 8 ans. Du temps de prière premier, il n'y avait pas de pont sur la Neva. L'obstiné marin avait voulu que tout habitant de sa ville fût marin comme lui. On traversait le fleuve en bateau, ce qui n'était pas toujours sans danger. 25 ou 30 personnes nous attendaient. Tout à coup, Home, que ses libéralités envers les poissons du golfe de Finlande avaient tout à fait remis, frappe ses mains l'une contre l'autre, saute de joie et m'embrasse. Il venait de reconnaître sa fiancée au milieu des personnes qui nous attendaient. Personne ne m'attendait, moi, et je n'attendais personne. Cette fois, notre passage du Cockerill sur le quai fut facile. Nos paquets ne nous gênaient pas. Nous prîmes congé de la princesse Dolgorouki. Nous prîmes congé du prince Troubetskoï, qui me renouvela son invitation d'aller tuer des loups à Gatchina. Et nous montâmes dans 3 ou 4 voitures du comte Kouchelev, qui nous attendait pour nous conduire à sa maison de campagne, Bezborodko, située sur la rive droite de la Neva, hors de Saint-Pétersbourg, à 1 kilomètre de l'arsenal, en face du couvent de Smolnoï. La première chose qui doit frapper un étranger débarquant à Saint-Pétersbourg, ce sont les voitures à un cheval appelé Droshki, avec leur cocher à longue robe, serré par une ceinture brodée d'or, ou jadis brodée d'or, leur bonnet en pâté de foie gras et leur plaque de cuivre en losange pendue dans le dos. Cette plaque porte leur numéro et est toujours sous la main de celui ou de celle qu'ils conduisent, lequel ou laquelle, s'il a à se plaindre du cocher, n'a qu'à la prendre et à l'envoyer à la police. Il va sans dire que la police russe, comme la police française, donne bien rarement raison aux cochers. Les cochers russes, izvotchiks, sont, comme toute la population de Saint-Pétersbourg, bien rarement nés à Saint-Pétersbourg. Ce sont en général des paysans qui arrivent de Finlande, de la Grande ou de la Petite Russie, de l'Estonie ou de la Livonite. Ils font le métier d'izvotchiks, avec la permission de leur maître, auquel ils paient pour cette demi-liberté une redevance qui varie en général de 25 à 60 roubles, c'est-à-dire de 100 à 250 ou 260 francs. Cette redevance s'appelle labrok. Les drojki sont de deux formes. L'une de ces formes est celle d'un petit tilbury. En s'y pressant, on peut tenir deux. Le drojki ne s'élève guère plus haut qu'une de nos voitures ordinaires d'enfants. L'autre forme n'a pas d'analogue en France. Supposez une selle faite pour un cavalier devant porter deux personnes en croupe, assises sur la même selle que lui. On enfourche la voiture comme un cheval, seulement les pieds, au lieu de poser sur l'étrier, posent sur une double banquette. Le cocher, placé en tête, a l'air de l'aîné des quatre fils Aymon, conduisant ses trois frères au grand tournoi de leur oncle, empereur Charlemagne. Ce véhicule est évidemment tatar et national, l'autre est une importation étrangère, modifiée par le goût ou les exigences du pays. Nous remontâmes le quai. Nous passâmes devant la maison de M. de Laval-Montmorency et nous nous trouvâmes sur la place de l'Amirauté, qui perd peu à peu son nom pour prendre celui de Place Saint-Isaac. Là, je me reconnaissais, quoique je ne fusse jamais venu à Saint-Pétersbourg, mais j'ai fort étudié Saint-Pétersbourg, justement parce que je n'y étais pas venu. En arrivant par le quai, j'avais à ma gauche le palais, à ma droite le Sénat, au lointain Saint-Isaac, devant moi les deux colonnes, la statue de Pierre le Grand par Falconet, l'Amirauté et son boulevard, promenade ordinaire de l'empereur Nicolas et de l'empereur Alexandre, qui venaient chercher là le premier surtout, des rencontres à la Henri IV. Nous aurons l'occasion de reparler de ces monuments. Pour le moment, nous ne faisons que passer devant eux. Au bout de quelques minutes, nous longions le Champ de Mars, dominé par la caserne du régiment Polovski, régiment créé par Paul et dans laquelle on n'entre encore aujourd'hui qu'à la condition d'avoir le nez retroussé à la façon de son fondateur impérial. Pauvre Audry, s'il fût venu à Saint-Pétersbourg, il eût été certainement, bon gré mal gré, fait colonel du régiment de Polovski. En longeant le Champ de Mars, on écorne de l'œil le Palais Rouge, jaune aujourd'hui, résidence habituelle de Paul, monument de sinistre mémoire qui, comme celui de Ropcha, a entendu les cris d'agonie d'un empereur. J'entrevis la fenêtre de l'angle, fenêtre constamment fermée et voilée depuis 57 ans. C'est la fenêtre de la chambre funèbre. Autrefois, il était défendu de s'arrêter devant cette fenêtre et de la regarder. Un jeune Livonien qui avait eu cette imprudence fut poussé dans l'intérieur du palais, aujourd'hui l'école du génie, dépouillé, rasé, fait soldat pour 20 ans. C'était sous l'empereur Nicolas. Aujourd'hui, Moinet pourra en faire un dessin publiquement au grand jour, assis au coin du jardin d'été, sans être fait soldat ni même envoyé en Sibérie. Il est vrai que c'est sous le règne de l'empereur Alexandre. Nous tournons à gauche, nous passons au pied de la statue de Souvarov. Ne prononcez pas Souvarov, comme nous prononçons nous autres Français, en estropiant impitoyablement le nom d'un des plus grands hommes de guerre qui ait existé. Et nous nous retrouvons sur le quai, en face de la forteresse. Disons en passant que c'est non seulement une bien mauvaise, mais encore une bien ridicule statue que celle de Souvarov en Achille. Achille porte malheur à ceux qui empruntent son costume, soit nu, soit en armure. Voyez plutôt, la statue a été élevée à Souvarov après sa mort. Vivant, il ne l'eût pas permis, il avait trop d'esprit. Dans un autre moment, nous causerons de Souvarov. Maintenant, vous devez comprendre, cher lecteur, qu'après 400 lieues faites en bateau à vapeur, nous sommes pressés d'arriver. Aussi, je me contente de jeter, en traversant le quai, un regard sur le jardin d'été, sur cette fameuse grille qui fit faire le voyage de Saint-Pétersbourg à un Anglais. Débarqué au quai anglais, il prit un drojki en disant « Lietnisad », ce qui signifie « au jardin d'été ». Le drojki le conduisit au jardin d'été. Arrivé devant la grille, « Stoy », dit-il. « Vous comprenez que cela veut dire « arrête ». Le drojki s'arrêta. L'anglais regarda la grille pendant 10 minutes, murmura deux ou trois fois tout bas « Very well, very well », puis à l'isvotchik. « Paracode !» cria-t-il. « Pascarillé, pascarillé !» Ce qui signifiait « Au bateau, vite, vite !» L'isvotchik ramena son homme au quai anglais juste à temps pour reprendre le bateau qui repartait pour Londres. « Caraccio !» dit-il à l'isvotchik en lui donnant une guinée. Et il monta sur le bateau et partit. La grille du jardin d'été était tout ce qu'il voulait voir et tout ce qu'il vit à Saint-Pétersbourg. Comme je n'étais pas venu seulement pour la grille du jardin d'été, je continuais mon chemin et traversais le pont de bois en jetant un regard sur cette forteresse, berceau de Saint-Pétersbourg, et sur le clocher de l'église Pierre et Paul, tout emmailloté d'un échafaudage en bois, qui, si beau que doit être un jour le clocher, me paraît une œuvre d'art qui peut lui être comparée. La Neva est splendide vue du pont de bois. C'est de là qu'elle se déroule dans toute sa majesté. Grâce à ce magnifique fleuve, peu de capitales ont le grandiose aspect de Saint-Pétersbourg. Le grandiose aspect, entendons-nous bien, je ne dis pas la grandiose réalité. Nous vous ferons toucher du doigt plus tard la différence qu'il y a entre aspect et réalité. Une chose dans laquelle s'accordent l'aspect et la réalité, par exemple, c'est le pavé de Saint-Pétersbourg. Lyon est parqueté relativement. Figurez-vous des galets ovales, les uns de la grosseur du crâne d'un patagon, les autres ayant le volume d'une tête d'enfant de la plus petite dimension, posés les uns à côté des autres et branlant dans leurs alvéoles, les voitures dansant là-dessus et les voyageurs dansant dans les voitures. Avec cela au milieu de la rue, des ornières comme dans un chemin de traverse, des tas de cailloux qui attendent leur entrée en fonction comme pavés et qui ne sont encore que surnuméraires, certaines portions parquetées en longues planches mouvantes qui font la bascule d'un côté quand la voiture s'engage dessus, pour la faire de l'autre quand la voiture arrive à leur extrémité. Après les planches, un quart de verse en macadam devenu poussière, puis les galets, puis les ornières, et encore les planches, et encore la poussière. Voilà le pavé de Saint-Pétersbourg. Le prince Wiasemski a fait une ode dans laquelle il constate l'état de la Russie au XIXe siècle. La première strophe est consacrée aux rues et aux chemins de traverse. Souvenez-vous, cher lecteur, que ce n'est pas moi qui parle, mais que c'est un prince russe qui devait se connaître en trous et en chemins de traverse, ayant été secrétaire général du ministère de l'Intérieur. Voici cette ode. Dieu des ouragans et des trous, Dieu des hôtels sans lit mais non sans puce, Dieu des chemins vrais casse-cou, c'est lui, c'est le bon Dieu des Russes, Dieu des affamés les pieds nus, des mendiants avec ou sans capuce, Dieu des terres sans revenus, c'est lui, c'est le bon Dieu des Russes, Dieu des décorés au long col, Dieu des valets, trouvez la rime en russe, des seigneurs portant le licol, c'est lui, c'est le bon Dieu des Russes. Dieu de bonté pour les pervers, Dieu de rigueur pour les cœurs sans astuce, Dieu de toutes choses à l'envers, c'est lui, c'est le bon Dieu des Russes. Puisque nous sommes en Russie, contentons-nous de ce bon Dieu-là et ne soyons pas plus difficiles que les gens du pays. Donc, tout en faisant connaissance avec le pavé de Saint-Pétersbourg, qui en 3 ans détruit la voiture anglaise ou française la mieux établie, nous passâmes devant l'arsenal, immense bâtiment construit en briques que son architecte a eu l'intelligence de laisser à sa couleur naturelle. Puis, Par un retour à droite, nous nous retrouvâmes sur le bord de la Neva, ayant devant nous, de l'autre côté du fleuve, le ravissant couvent de Smolnoï. Nous longeâmes encore le quai pendant une verste à peu près. Bon, je m'aperçois que j'ai déjà la fatuité d'employer les mots russes. Une fois pour toutes, cher lecteur, vous saurez que verste et kilomètre, c'est exactement la même chose, que l'un peut se traduire par l'autre. Nous longeâmes donc le quai pendant une verste à peu près, et nous nous arrêtâmes devant une grande villa avec deux ailes circulaires se rattachant au corps de logis principal. La villa était bâtie non pas comme chez nous entre cour et jardin, mais entre deux jardins. Nos voitures défilèrent l'une après l'autre sous des massifs de lilas en fleurs. Nous retrouvions à Saint-Pétersbourg le printemps, qui déjà depuis 2 mois avait pris congé de nous à Paris. Sur les marches du perron était rangée toute la domesticité du comte en grande livrée. Au bas du perron, 25 ou 30 moujiks à chemise rouge et à longue barbe attendaient leur seigneur. Le comte et la comtesse descendirent de voiture et le baise-main commença. Puis nous montâmes un escalier et nous entrâmes au premier étage dans un grand salon où un autel était dressé. Devant cet autel était un prêtre russe qui, aussitôt que le comte et la comtesse eurent dépassé le seuil du salon, commença de dire la messe. Chacun s'approcha et écouta religieusement. C'était la messe du bon retour. La messe dite, et le digne pope eut le bon esprit de ne pas la faire longue, on s'embrassa, on rompit les rangs et, sur l'ordre du comte, les domestiques conduisirent chacun au domicile qui lui était destiné. C'est quelque chose de prodigieux que la vue que l'on a du balcon. D'abord, en ligne directe. Au-dessous du sol, le quai. Soudé au quai, 2 grands escaliers de granit descendant sur la berge de la rivière et dominé par un mât de 50 pieds de hauteur. Au faîte de ce mât flotte un drapeau aux armes du comte. C'est son débarcadère, ou plutôt c'est le débarcadère où la grande Catherine a mis le pied lorsqu'elle fit l'honneur au prince Bezborodko de venir prendre sa part d'une fête qu'il donnait pour elle. Devant ce débarcadère qu'elle baigne de son eau, roule lentement la Neva, large 8 ou 10 fois comme la Seine à Paris au pont des Arts. Le fleuve est couvert de bateaux aux longues flammes rouges flottant au vent, chargés de bois de sapin pour construction et de bois de chauffage, venant du centre de la Russie par ses canaux intérieurs, ouvrage de Pierre le Grand. Ces bateaux ne retournent jamais là d'où ils sont venus. Construits par ceux qui amènent ce bois, ils sont vendus avec ces bois, dépecés et brûlés comme lui. Les conducteurs s'en retournent à pied. De l'autre côté de la Neva, juste en face du balcon, s'élève le plus bel édifice religieux de Saint-Pétersbourg, le couvent de Smolnoï, devenu une pension de jeunes filles nobles. La vue en droite ligne ne s'étend pas au-delà de l'édifice qui borne l'horizon. Il se compose d'abord à son centre d'une masse taillée à l'orientale, avec un dôme central étoilé autour duquel s'élèvent 4 autres dômes plus petits et plus bas que le dôme principal. 4 autres dômes placés à 500 pas l'un de l'autre à peu près, aux 4 points cardinaux, l'entourent comme d'un rempart par la muraille qui les relie entre eux. Un grand bâtiment carré, percé régulièrement de 60 ou 80 fenêtres, nuit un peu au pittoresque de l'ensemble par son aspect de caserne. C'est dans ce bâtiment qu'habitent les jeunes filles nobles reçues à Smolnoï. L'édifice a été bâti sous le règne de Catherine II par l'architecte Rastrelli pour servir de cathédrale à l'Institut des Veuves Nobles. À ma gauche, la Neva décrit une courbe. Elle s'enfonce vers le lac Ladoga, située à 180 verstes de Saint-Pétersbourg. Outre les bateaux dont nous avons parlé, et qui se tiennent à l'ancre près de l'une ou de l'autre rive pour laisser libre le cours du fleuve, de préférence cependant contre la rive gauche, le milieu du fleuve est couvert de bâtiments qui montent ou qui descendent à la voile et entre lesquels circulent des quantités de petites barques allant, venant, passant d'un bord à l'autre, agiles comme des poissons, bariolés de vert, de jaune et de rouge, caricature des caïques de Constantinople. À part deux clochers qui s'élèvent sur la même rive que celle où nous sommes, c'est-à-dire sur la rive droite, les bâtisses sont basses et sans prétention. N'oublions pas que nous sommes hors de la ville. Seulement, à défaut du mouvement qui manque au terrain plat, de magnifiques masses de verdure y jettent un grand charme. À une lieue de moi, à peu près, la Neva disparaît dans la courbe qu'elle forme. À gauche du couvent de Smolnoï, relativement à sa position vis-à-vis de moi, de l'autre côté du fleuve, s'élève le palais de la Tauride, avec sa rotonde aplatie, son immense parc feuillu, au-delà duquel, comme un tapis de sombre verdure, s'élève la coupole d'or de Saint-Vladimir. De près, cette improvisation granitique de Potemkin doit être d'un médiocre effet. Mais de loin, à une distance où les détails disparaissent, sa masse tient majestueusement une place dans le paysage. On sait que le palais de la Tauride, avec ses meubles magnifiques, ses statues de marbre, ses lacs aux poissons dorés, son hibou d'or qui tourne la tête et roule les yeux, son paon d'or qui fait la roue et son coq d'or qui chante, nous retrouverons ces trois animaux à l'ermitage avec leur arbre d'or. On sait, dis-je, que ce palais est un don que fit Potemkin à Catherine II, pour célébrer la conquête du pays dont ce palais porte le nom. La chose étonnante dans tout cela, ce n'est point le faste du donateur. Potemkin, qui donnait tous les ans au mois de janvier à sa souveraine un panier de cerises qui coûtait 10 000 roubles. Potemkin avait habitué Catherine à de pareils cadeaux. Mais c'est la religion avec laquelle le secret fut gardé. Un palais qui, avec son parc, couvre 4 arpents de terrain, s'était élevé au milieu de sa capitale et Catherine n'en savait rien. Si bien qu'un soir, lorsque le ministre invita l'impératrice à la fête nocturne qu'il comptait lui donner, à la place de quelques marécageuses prairies qu'elle connaissait, elle trouva, resplendissant de lumière, plein d'harmonie et tout émaillé de fleurs vivantes, un palais qui semblait bâti par la main des fées. Nous reviendrons plus tard à Potemkin, et la bonne fortune qui nous a fait faire connaissance avec sa nièce, qui vit encore, dans les bras de laquelle il est mort, et qui a aujourd'hui 86 ans, nous permettra de donner sur lui quelques renseignements que n'ont jamais donné les historiens. Placés ici, ces renseignements nous éloigneraient par trop de notre panorama, auquel nous nous empressons de revenir. Au fond, à l'extrême droite, s'étend sur une ligne qui embrasse nous l'horizon et qui fuit à perte de vue, Saint-Pétersbourg, immense fouillis de maisons que divise le fleuve et que surmontent l'aiguille de l'Amirauté, les dômes d'or d'Isaac et les coupoles étoilées de la cathédrale d'Ismaïlovski. Tout cela se détachant sur un ciel gris-perle, teinté de bleu, qui faisait tout valoir, excepté le vert tendre des toits. Le vert est une maladie dont sont atteints les pétersbourgeois. Comme M. le baron Gérard, auteur de l'entrée de Henri IV à Paris, qui voyait vert, leurs architectes voient vert. Disons tout de suite la vraie cause de cette hérésie en peinture. Les pétersbourgeois n'ont pas, de temps immémorial, peint leur toit en vert pour l'honneur d'avoir inventé une 53e nuance de cette couleur. La nature en donne, je crois, 52. Mais parce que leur toit étant de tôle et devant nécessairement être peint, Ils ont dû choisir la couleur qui résistait le plus longtemps à la neige, à la pluie et à la gelée. Le noir était bon marché et dure longtemps. Aussi, dans un temps, la moitié des toits de la Russie septentrionale et occidentale étaient-ils en deuil. Mais l'empereur Nicolas trouva la couleur lugubre et défendit de peindre les toits en noir, réservant à la couronne ce privilège pour ses châteaux. Il y a bien encore le rouge qui simule la fabrique et qui fait assez bien sur les arbres et sur le ciel. Mais le rouge est mauvais teint, et au bout de 3 ans, les amateurs de rouge sont obligés de faire repeindre leurs toits. Le vert, au contraire, dans lequel il entre de l'arsenic, dure 7 ans, l'âge à peu près d'un pape. On a calculé que depuis Saint-Pierre jusqu'à Pio Nono, comme disent les bienheureux Romains, la moyenne du règne d'un pape était de 9 ans à peu près. Aucun n'a régné 25 ans si ce n'est Saint-Pierre. Aussi dit-on, à chaque pape que l'on exalte, et qui presque toujours est nommé parce qu'il donne la chance d'une succession prochaine lorsqu'il apparaît pâle, malingre, souffreteux, rachitique, goutteux ou paralytique par grâce d'État. En voilà encore un qui ne vivra pas les années de Saint-Pierre. Mon ami le pape Grégoire XVI a failli faire mentir la prédiction, mais enfin, il s'est conformé à l'habitude et est mort dans la 24e année de son règne.